Bonjour à toutes et à tous sur Gaston, de la radio du collège Gaston Baptiste. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale sur le thème de l'indépendance, dans le cadre d'un concours international proposé par l'association Une Fois, Une Voix. Nous avons choisi d'aller à la rencontre d'adolescents pour les interroger pour qu'ils nous racontent comment ils accèdent progressivement à l'indépendance. En effet, cette période de la vie est caractérisée par la découverte progressive de l'autonomie, mais aussi la construction de la personnalité et les choix. En grandissant, nous nous sentons capables et avons envie de plus de liberté. Mais il y a quand même des limites, des cadres qui nous sont imposés par l'école, les parents, etc. etc. Gare à la crise ! Je laisse maintenant ma place à Yumi et Zélie qui vont interviewer des élèves du collège sur leur propre indépendance.
Bonjour Elliot, nous allons te poser des questions sur l'indépendance.
Quand et comment as-tu réussi à faire tes devoirs sans l'aide de tes parents ?
Je n'ai jamais trop eu de problèmes sur mes devoirs, mais quand j'en avais, ils étaient toujours là pour m'aider.
Et comment as-tu réussi ?
Je travaillais chaque soir mes leçons. Et au fur et à mesure, ça rentrait dans ma tête.
Quand as-tu eu ton premier téléphone portable ?
Pour le moment, je n'en ai pas.
Quand as-tu pu sortir avec tes amis avec l'autorisation de tes parents ?
À partir de la rentrée en 6e, je partais souvent faire du tennis avec des amis. Et sinon, j'allais faire du vélo seul ou avec des amis. Mais depuis un peu plus longtemps.
Et comment as-tu réussi à obtenir cette autorisation ?
Ils avaient confiance en moi, donc quand je leur ai demandé, ils étaient d'accord.
Quand as-tu eu le droit de rester seule avec tes frères et sœurs si tu en as chez toi ?
En CM2, je rentrais seule le soir et après je restais jusqu'à que mes parents rentrent.
Et comment as-tu pu avoir le droit ?
Comme pour sortir, mes parents avaient confiance en moi.
Quand as-tu pu aller dans des clubs de sport, de loisirs ou dans des colos en ayant l'autorisation de tes parents ?
Dès la moyenne section, j'aimais bien faire la musique, donc mes parents m'ont inscrit dans la musique, dans l'école de musique à Macla.
Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé ?
Ma maman avait travaillé là-bas, du coup ça a été facile pour m'inscrire et je connaissais déjà beaucoup de monde.
Est-ce que tu te fais à manger tout seul ?
Avec ma sœur, on aime bien préparer un repas quand c'est l'anniversaire de mes parents.
Et à quel âge as-tu commencé ?
À partir du CE2.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Mélodie, nous allons te poser des questions sur l'indépendance. Quand as-tu eu ton premier téléphone portable ?
J'ai eu mon premier téléphone portable à 10 ans pour le collège.
Quand as-tu eu accès aux réseaux sociaux comme par exemple Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube ?
J'ai eu Snapchat en 6e, mais je n'ai pas eu le droit à d'autres réseaux sociaux.
Quand as-tu commencé à faire tes devoirs toute seule sans l'aide de tes parents ?
Jamais. J'ai encore besoin de mes parents pour faire mes devoirs.
Quand as-tu pu sortir avec tes amis avec l'autorisation de tes parents ?
J'ai commencé en 5e et c'est toujours d'actualité.
Quand as-tu pu aller dans des clubs de sport, de loisirs ou dans des colos en ayant l'autorisation de tes parents ?
Des colos, j'ai eu l'autorisation à 6 ans et les clubs sportifs, etc. à 4 ans.
Quand as-tu eu le droit de rester seule ou avec tes frères et sœurs si tu en as chez toi ?
Avec mes frères et sœurs, j'ai eu le droit à 12 ans et toute seule à 10 ans.
Est-ce que tu te fais à manger toute seule ?
Oui, depuis mes 5 ans.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Écoutons maintenant Elisa et Adam qui ont réalisé un sondage dans le collège à propos de la dépendance sur les téléphones portables.
Bonjour, nous allons vous présenter les sondages sur l'indépendance. Nous avons demandé à des élèves de 6e et de 4e de répondre à nos questions de façon anonyme. 100% des 4e interrogés déclarent avoir un téléphone ainsi que 16 6e sur 20. Dans les deux cas, 8 sur 20 ont un contrôle parental.
Dans la plupart des cas, chez les 4e, le téléphone a toujours été obtenu en 6e, plus rarement en CM2. Mais la majorité des 6e a été équipée dès l'école primaire, parfois dès 8 ans. La plupart des élèves de 6e sont présents sur les réseaux sociaux, de même que les 4e, comme YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, Biril, WhatsApp et un 4e sur 20 utilisent Thread.
Les 4e se déclarent plus dépendants de leur téléphone, puisqu'ils sont plus de la majorité à avoir dit qu'ils ne pourraient pas s'en passer pendant une journée contre 3 6e sur 20.
Les sixièmes passent en moyenne 1h30 par jour sur les écrans en semaine. Un tiers 30 minutes ou moins, un autre tiers environ 1 heure et un tiers 2 heures ou plus. On constate que les quatrièmes passent nettement plus de temps sur les écrans. 3h30 en moyenne, un tiers d'entre eux passent plus de 5 heures.
Logiquement, le temps d'écran est plus important le week-end. 4 heures pour les sixièmes, 8 heures pour les quatrièmes. Un tiers des quatrièmes passent 12 heures ou plus par jour devant des écrans.
Adam et Elisa vont interviewer Madame Sintas, la psychologue de notre collège.
Bonjour Madame Sintas, nous allons vous poser quelques questions sur la dépendance. Pour commencer, que signifie la dépendance ?
Alors bonjour, la question de la dépendance, c'est une question assez complexe. En fait, quand on parle de dépendance, c'est quelque chose dont on ne peut se passer. On peut être accro, hein. Et en fait aussi, quand on est dépendant, on peut ressentir ce qui s'appelle des effets de manque quand on n'a plus cette chose, ou ça peut être aussi une personne. Voilà, je crois qu'après vous avez des exemples un peu plus précis par rapport à la dépendance, mais voilà, être dépendant, c'est être fortement lié à quelque chose, et quand on en est privé, il y a des symptômes ou des effets qui apparaissent.
Est-ce possible d'être dépendant au téléphone ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un souci actuel dont on parle beaucoup. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la dépendance aux écrans. Donc, on parle de dépendance aux écrans dans le cadre des jeux vidéo, des téléphones aussi, des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est un objet dont on est vraiment, où on peut vite être dépendant et où ça peut être très compliqué de s'en séparer.
Dans ce cas, comment ne plus en être dépendant ?
Alors, déjà, il faut arriver à repérer le fait qu'on en soit dépendant. Souvent, c'est signifié par les autres. Alors, vous, c'est peut-être vos femmes ou les gens qui sont autour de vous. Comment ne plus être dépendant d'un téléphone ? Je dirais qu'il faut se faire aider. Alors après, si vous vous en rendez compte vous-même, ce qui peut être bien aussi, c'est arriver à se limiter, à se cadrer. Par exemple, si on utilise trop son téléphone, ce qui peut aider, c'est de se donner un temps autorisé pour utiliser son téléphone. On peut limiter le temps qui est, vous savez, par rapport à l'accès aux données cellulaires, enfin au réseau, à Internet. Donc ça peut se borner. On peut demander aussi, ou des fois on le subit, mais c'est pour nous aider, il y a une forme de contrôle parental, donc des fois à partir de certaines heures, on a accès ou pas à nos réseaux. Voilà. Et vraiment, si ça devient compliqué, si on voit que quand on n'a pas son téléphone ou quand... Par exemple, ça peut arriver, je ne sais pas si ça vous est arrivé en classe, pour certains, de se faire confisquer le téléphone, et certains, ça peut les mettre dans des colères ou des états de détresse assez forts. Et ça, c'est quand même des signes comme quoi on est plutôt accro à son téléphone, et quand c'est comme ça, il faut peut-être aller, si on peut, demander à être aidé pour décrocher de ça.
Quels effets les écrans peuvent-ils avoir sur les adolescents ?
Du coup, les effets pour les adolescents, alors on parle des effets des écrans très très tôt, parce que en fait, ça a des effets, notamment au niveau neurologique, sur le cerveau. En fait, le téléphone, les écrans, ils créent un effet de dépendance parce que au niveau du cerveau, il y a une sécrétion d'hormones qui se fait quand on regarde des écrans et qui crée aussi une forme de dépendance. Alors, c'est la dopamine et c'est donc une hormone qui est associée au plaisir et voilà, en tout cas, ça nous rend assez dépendants. Donc, quand vous avez accès aux écrans, il y a un shoot d'hormones et on veut y revenir. Il y a aussi l'effet que peut provoquer, par exemple, certains jeux sur vos téléphones, c'est-à-dire qu'on y joue, on progresse dans le niveau et on se dit que si on décroche, on va perdre cette progression. Et puis, il y a l'effet, par exemple, des réseaux sociaux. Quand on commence à lire des conversations, des histoires, c'est très difficile de décrocher parce qu'on a l'impression que tout se passe là et qu'il ne faut pas décrocher, sinon on va rater des choses. Mais ça, ce qu'il faut retenir dans ce que je dis, c'est que les écrans, ils ont un effet sur notre cerveau et ce qui se passe dedans, et ce qui crée ces effets de dépendance.
Comment reconnaître quelqu'un qui est addict ou savoir si on est dépendant ?
Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a les effets, en fait, par exemple, les effets de privation. C'est-à-dire que si on observe que quelqu'un qui est privé de son se met dans un état anormal ou de détresse, ça déjà, c'est un signal important. Si par exemple, vous vous rendez compte, je ne sais pas, vous allez vous promener, vous avez oublié votre téléphone et vous êtes complètement perdu et mal, ça peut être... un signe aussi de dépendance. Après, il faut relativiser. Des fois, il y a des choses aussi... je pense qu'on peut sortir, se balader et se dire bah, « il faut quand même que j'ai mon téléphone en cas qu'il m'arrive quelque chose ». Là, ce n'est pas pareil de ne pas être tranquille. Voilà, il faut en fait repérer les signes qui montrent que si on est sans, on est dans un état de mal-être ou si, par exemple, on y pense tout le temps. Par exemple, je suis en classe et je me dis « oh là là, il faudrait que j'aille voir ce qui s'est passé sur Messenger ou les stories qu'ont mis mes copains ou sur Snap ». Voilà, ça, si on y pense tout le temps, si ça nous obsède, bah là, c'est un signal aussi de dépendance. Et puis, j'allais dire aussi, quand ça a un impact sur sa vie quotidienne. Si, par exemple, vous vous retrouvez à réduire votre temps de sommeil pour passer plus de temps sur les écrans. Donc, soit vous, en gros, si je me dis « allez, encore... vous savez, des fois, il y a les petites vidéos qu'on regarde, là, les réelles, je crois. Si on regarde, c'est vrai que c'est addictif, ça. Si on regarde, on regarde, on regarde, et au final, on décale son heure de sommeil de 2-3 heures, et que le matin, on est hyper fatigué parce qu'on a fait ça toute la soirée, voire une bonne partie de la nuit, et ben là, c'est un signe. Et puis, c'est pareil, si vous voyez un de vos camarades qui a l'air très, très fatigué parce qu'il passe beaucoup de temps sur les écrans, c'est aussi un signal que ben, y a une forme de dépendance.
Dernière question, que faire sans ces écrans?
Sans les écrans, on peut faire plein de choses. On peut déjà voir ses amis dans la vraie vie, partager vraiment un bon moment. Et puis après, faire des activités qui vous plaisent, des loisirs, du sport. Si c'est plutôt être seul, vous pouvez aller vous balader. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est de développer son imagination.
D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
Mais pour les âges légaux, y a-t-il des lois qui les définissent? Écoutons maintenant Lydie et Swazik.
La loi prévoit la prise d'autonomie progressive des enfants et adolescents en fonction de leur degré de maturité.
Si la majorité est fixée à 18 ans, les mineurs accèdent progressivement à de nouvelles possibilités selon leur âge et deviennent de plus en plus indépendants.
À 10 ans, vous pouvez aller seul à la piscine. À partir de 13 ans, vous avez accès aux réseaux sociaux, tels que Snapchat, Biril, Pinterest ou TikTok. Mais vous avez, dès cet âge-là, la responsabilité d'assumer vos actes et pouvez désormais aller en centre éducatif fermé. La majorité sexuelle est fixée à 15 ans. Les mineurs peuvent avoir des rapports entre eux. Avec un majeur, il faut que l'écart n'excède pas 5 ans. Dans tous les cas, le consentement est obligatoire.
Encore heureux. À 16 ans, vous avez l'autorisation de vous rendre dans les bars ou les boîtes de nuit, accompagné d'un majeur bien sûr, si vous ne buvez pas d'alcool. Dès cet âge-là, vous avez la possibilité d'avoir un petit boulot. À partir de 17 ans, vous pouvez passer le permis de conduire. Et dès l'âge de 18 ans, vous êtes en mesure de boire de l'alcool légalement. Vous obtenez le reste des libertés françaises, comme le droit de vote, celui de fumer du tabac ou de vous marier.
Ah bon? C'est pas à 16 ans avec l'autorisation des parents?
Eh bien apparemment, à moins qu'ils ne soient émancipés, ce n'est pas possible.
Ah d'accord.
Vous avez accès à tous les autres réseaux et pouvez enfin aller en boîte de nuit tout seul comme des grands.
Maintenant, place au mouton de Panurge. À vous de jouer, les filles.
Mais en fait, c'est quoi un mouton de Panurge?
Eh ben, c'est les petits moutons que j'ai dessinés sur mon cahier. Non. En fait, être un mouton de Panurge, c'est lorsque l'on fait quelque chose pour ressembler à autrui, pour faire comme lui. Lorsque l'on rentre dans un moule sans se démarquer. Par exemple, quand on a peur de prendre des initiatives sans savoir si on sera suivi ou soutenu. Être un mouton de Panurge est donc notre manque d'indépendance face au regard des autres, entrant ainsi dans le thème de notre émission. Cette expression, qui n'est que rarement employée de nos jours, vient au départ d'un écrit de François Rabelais, intitulé « Quart livre ». La partie de l'histoire nous intéressant parle de quelqu'un du nom de Panurge, évidemment, qui balance à la mer un mouton.
Pauvre mouton !
Et dont les autres vidés suivent de même le premier et sautent à l'eau. Suite à cette histoire, naquit l'expression « mouton de Panurge ». Des expériences ont été menées sur ce phénomène social appelé conformisme. Des recherches scientifiques ont démontré que l'être humain se conforme aux autres dans un groupe dans l'objectif de se faire accepter ou se conforme à l'avis des autres de peur de se tromper. Ceci peut s'expliquer par le fait que nous sommes des êtres vivants qui vivent ensemble et sommes incapables de subvenir seuls à nos besoins.
Moi, je suis totalement indépendante.
À l'adolescence, ce phénomène prend beaucoup de sens puisqu'à cet âge-là, on veut à tout prix être dans un groupe, être accepté et avoir des amis nous ressemblant. Mais d'un autre côté, chacun de nous souhaite être unique et se démarquer, être une personne spéciale et appréciée pour ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle c'est un âge compliqué où on se cherche. plus qu'à un autre moment de notre vie où on subit une pression sociale forte.
Et oui, c'est la vie.